tribu, Julien Magnolet.
Prendre soin de l'autre est un acte fondateur de notre humanité. Depuis notre naissance, nous avons besoin de soins. Cette dépendance à l'autre de l'enfance peut redevenir forte à l'âge adulte, par exemple lorsque nous sommes malades ou encore fragiles. Nos proches peuvent s'occuper de nous, mais aussi des professionnels du soin, comme des médecins ou des infirmiers. Alors, quelle est la place de l'amour dans le care, comme on le dit en anglais? Aimer peut-il aussi signifier arrêter de soigner? Bonjour Nathalie Zakaï-Reyners.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse au fond de la recherche scientifique belge et professeure à l'Université libre de Bruxelles. Vous avez dirigé ce livre « Aimer et soigner », il est paru au PUF. Alors Nathalie Zakaï-Reyners, est-ce qu'il y a forcément de l'amour dans le soin?
Alors, il y a forcément un besoin d'amour pour que le soin puisse être considéré comme un soin. Et je me permettrai de revenir il y a très très longtemps, il y a 1,8 million d'années, quand l'Homo sapiens a connu une transformation profonde, et où ce que nous apprennent en fait les sociobiologistes ou les paléontologues, c'est qu'à ce moment-là, les naissances se sont rapprochées. Il y a eu de plus en plus de bébés qui sont nés de façon rapprochée, et donc les mères ne pouvaient plus, si vous voulez, s'occuper d'enfants qui n'étaient pas encore autonomes en ayant un nouveau-né qui arrivait. Et là, il a fallu donc trouver des solutions, et c'est un mode de reproduction qui est assez rare dans l'espèce, qui est la reproduction communautaire, qui a pu permettre à l'espèce humaine de survivre, c'est-à-dire en fait le fait d'impliquer d'autres personnes dans le soin aux êtres vulnérables. Et c'est pour certains, en tout cas, c'est cette dépendance qui a permis à l'empathie de surgir dans l'humanité. Donc c'est vraiment dans la capacité des petits à se relier à des gens, à des autres, à des aidants qui n'étaient pas seulement leurs parents biologiques, que sont nées un certain nombre de compétences fondamentales pour l'humanité.
Et c'est vrai, lorsqu'on y pense, on n'est vraiment pas très bien fini. Enfin, on est bien fini, mais je veux dire, on a une faiblesse quand même très rapide. On a besoin déjà de ses parents, mais aussi effectivement de d'autres personnes pour pouvoir apprendre plein de choses, à commencer par, on n'arrive pas à se nourrir tout seul, on n'arrive pas à marcher tout seul. Enfin voilà, contrairement à d'autres espèces, c'est un peu compliqué quand même la naissance chez l'humain.
C'est ça, et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que non seulement il a fallu que les mamans, les mères entrent dans des relations de confiance avec d'autres personnes, d'autres êtres, mais aussi que les petits arrivent à capter et à s'adapter, si vous voulez, aux soins d'autres. D'autres aidants. Et donc, ces liens d'attachement sont devenus centraux pour simplement déjà la survie de ces nouveau-nés. Et on retrouve les mêmes éléments en psychologie du développement, où, si vous voulez, sans attachement, sans relation affective, le soin peut, même si le soin est seulement uniquement nutritionnel, biologique, etc., les pathologies vont à peu près de façon évidente surgir s'il n'y a pas un attachement qui est présent dans ces relations.
Alors lorsqu'on parle du soin, alors aujourd'hui il y a vraiment ce terme qui est beaucoup utilisé en sociologie, j'ai utilisé le care, donc c'est un soin qui n'est pas qu'un soin médical, c'est une forme d'attention à l'autre, ce qui est souvent mis du côté plutôt féminin, c'est d'attention à son enfant, mais à son entourage, à plein de choses. Si on reste sur peut-être la question des patients et des médecins ou des infirmiers, infirmières, est-ce que là, il y a dans ce rapport-là un rapport d'amour entre un soignant et un soigné?
Eh bien, justement, c'est cette question qu'on a notamment voulu explorer donc dans ce petit livre qui rassemble un certain nombre de contributions qui vont de la philosophie à la médecine. C'est comment on se débrouille avec cette dimension affective qui traverse les relations de soins, y compris professionnelles. et qui installe des enjeux qui sont compliqués en fait qui sont assez compliqués non seulement à percevoir, à comprendre, mais aussi à gérer parfois pour tant pour les patients que pour les soignants en fait.
Et c'est vrai que lorsqu'on est patient et qu'on va voir un médecin, des fois on peut être touché par une sorte de chaleur, d'attention, d'amour peut-être que la personne nous montre, mais on peut à contrario être parfois vexé parce que quelqu'un nous annonce une maladie grave. On a l'impression que la personne n'a pas d'émotion, n'a pas d'affect.
Tout à fait, tout à fait. Donc c'est alors cette dimension de la relation de soins qui est en fait fondamentale et qui malheureusement est de plus en plus difficile à faire valoir aussi dans les institutions de soins. Et donc vous me disiez le care est de plus en plus mentionné dans les discussions autour du soin, effectivement, parce que on a, si on reprend la distinction entre le cure et le care, le cure renvoyant, si vous voulez, à la dimension plus technique, professionnelle au sens, maîtrise des protocoles, etc., a été extrêmement bien valorisé, développé dans nos sociétés. En revanche, tout ce qui touche à la relation de care, si vous voulez, est un peu considérée comme une chose évidente qui serait déjà présente et naturelle chez chacun. Mmh. Et là-dessus, il y a quand même beaucoup de discussions aussi.
C'est intéressant parce qu'en français, on n'a pas tellement d'équivalent. On a effectivement ce mot « soigner » qui a le sens médical, mais aussi « prendre soin ». Avoir de l'attention pour une personne, alors qu'effectivement, en anglais, il y a le « cure » et le « care », donc « prendre soin » et « soigner » peut-être plus médicalement. Ça dit
absolument
quelque chose, peut-être?
Oui, absolument, parce que les éthiciennes du CARE, c'est-à-dire, si vous voulez, les travaux qui ont réfléchi à l'importance de cette dimension dans l'espace de la vie sociale et humaine en général, au départ, sont plutôt situés dans le monde anglophone. Et quand on a traduit ces travaux vers la sphère francophone, il a été décidé de ne pas traduire ce terme parce qu'en fait, en anglais, le terme care renvoie autant à une disposition qu'à une activité. Donc à une disposition de sollicitude envers autrui qu'à une activité qui est le fait d'effectivement avoir des pratiques de care. Et donc nous n'avons pas de mot en français qui conserve cette double référence, si vous voulez. C'est pour ça qu'on ne traduit pas dans la plupart des travaux, on continue à écrire care, y compris en français.
Effectivement, on le voit beaucoup dans les travaux de sociologie notamment. Si on revient à ce lien peut-être patient-soignant, alors de nouveau, on est peut-être dans la sphère médicale, entre guillemets, il y a parfois vraiment des relations fortes, voire des relations d'amour qui peuvent se développer. On pense comme ça typiquement à la psychothérapie où c'est vraiment thématisé le transfert qu'un patient ou une patiente peut avoir envers son psy, une sorte de quelqu'un qui vraiment s'intéresse vraiment à moi, ben c'est quelqu'un qui doit m'aimer, donc je tombe amoureux de cette personne. Là aussi, vous avez abordé cette question-là dans cet ouvrage.
Tout à fait. Il y a une contribution de la psychanalyste Françoise d'Avoine, psychanalyste française, mais qui est spécialisée dans les traumas de guerre en particulier, et qui a souhaité revenir sur le livre d'un analyste italien qui s'intitule justement Amour, mon ennemi. Ce livre raconte une analyse qu'a conduit cet Italien avec une jeune femme de 26 ans qui était en fait internée depuis déjà ses 14 ans et que la psychiatrie considérait comme impossible à guérir, si vous voulez, qu'elle allait être renvoyée vers un hospice ou un lieu de résidence à vie, si vous voulez. Et lui a eu une espèce je dirais pas une révélation, mais il a senti que cette personne allait mourir. Et il s'est relevé la nuit, il est retourné à l'hôpital. Effectivement, elle était occupée à se suicider. Et il y a eu une espèce de connexion entre eux qui n'a, il a voulu sauver, il a eu un espèce d'élan, non pas un désir sexuel ou quoi, mais vraiment un désir de conserver la vie. En accompagnant cette jeune femme et qui, elle, voulait mourir. C'est pour ça que ce livre s'appelle « Mourir, mon ennemi », c'est que c'était contraire à sa volonté. Mmh. Mais tout ça pour dire que Françoise Darwin, ce qui ressort vraiment là, c'est que aussi il peut y avoir des connexions qui font que l'analyste entre finalement en contact avec le délire des patients et que ça peut être aussi une façon d'aller les rechercher, qu'ils ne soient pas seuls dans leur tristesse, dans leur désespoir. Et voilà, cette connexion, elle est totalement singulière. On ne peut pas en préjuger nécessairement. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de difficile à protocoliser dans ce type de soins aussi. Mmh. C'est qu'il faut qu'il se passe quelque chose entre le patient et le soignant.
Il y a cette image qui revient souvent dans la fiction, vous savez, de ces... de ces soldats qui tombent sur le champ de bataille blessés, qui se font soigner par une infirmière, et c'est comme ça qu'ils font leur rencontre. C'est une thématique qui existe beaucoup dans les films, dans les romans, comme si effectivement prendre soin, c'est un peu tomber amoureux de la personne. Ou inversement, se faire soigner par, engendre des sentiments amoureux.
Oui, tout à fait. Alors, dans le cas de Mario Izzotti, c'est le soignant qui a eu cet élan de volonté de sauver cette jeune femme. Mais c'est vrai que dans la littérature, alors il y a un livre qui m'a beaucoup aidé pour ma part, en tout cas à réfléchir aux soins. C'est le livre de l'auteur sud-africain Kutsi, qui s'appelle L'homme ralenti. Dans lequel son personnage en fait subit un accident grave. Il est amputé d'une jambe, il se retrouve hospitalisé. Et en fait, l'avantage de passer par une fiction, c'est qu'on a accès à l'imaginaire de ce personnage, à voir comment il ressent en fait l'univers de soins. Et l'hôpital pour lui est quelque chose de très froid. Il se sent séparé complètement du monde des soignants qui sont valides. Et en revanche, quand il retourne à domicile, il est pris en charge par une aide-soignante. Et là, il se sent juste un homme blessé dont il faut soigner une blessure, simplement une blessure. Et effectivement, ça l'emmène vers des projections tout à fait amoureuses. Au point que on peut percevoir dans ce roman, mais c'est une projection en fait, de tout ce que ça peut entraîner comme demande totalement excessive à l'égard de cette aide-soignante, puisqu'il va jusqu'à vouloir se l'approprier. Mmh. Et c'est quelque chose d'important, c'est de comment ça, enfin, on le comprend dès lors qu'il est en présence d'une soignante qui lui fait du bien. On a on peut avoir ce désir de s'approprier cette personne-là comme soignant.
Nous parlons de la place de l'amour dans le soin avec vous, Nathalie Zakaï-Reners. On va parler justement de cette frontière, dans le fond, entre sentiments et soins que peuvent se poser certains médecins, certaines infirmières. Ça peut être aussi dans les EMS, les maisons de retraite. On le fera juste après Liane Lahavas.
Everything but the truth, the truth. Three little words over time, overheard and overused, used. No sweet. We'll be right back. closer we get. The less we need to show.
What You Don't Do, c'était Liane Lahavas. On vous retrouve, Nathalie Zakaï Reyners. Nous parlons de la place de l'amour dans le soin. Alors, sans forcément aller dans des effusions amoureuses, il y a souvent cette question de où s'arrête le professionnalisme, ou aller trop loin peut-être lorsqu'on est soignant. Est-ce que, par exemple, donner son téléphone portable privé à une patiente pour dire, voilà, c'est quelqu'un qui est en danger, par exemple, c'est bien, s'il y a un problème, je suis prêt de lui répondre, à lui répondre à tout temps de la journée. Il y a quand même cette question entre, c'est pas forcément des sentiments, mais ça peut être un attachement peut-être à un patient ou une patiente que doit se poser le médecin ou l'infirmière ou toute personne soignante.
Alors, je ne pense pas que je sois capable de répondre à cette question. En fait, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que le contexte, oui, c'est-à-dire que ce que je peux dire, c'est que il faut en effet qu'on laisse les personnes concernées réfléchir qu'est-ce que c'est que le juste soin, qu'est-ce que c'est la juste place de leurs interventions, et peut-être que pour ça on peut s'intéresser à la façon dont, à ce que nous dit Donatien Mallet, qui est un médecin qui a écrit dans ce volume un texte assez fort sur comment trouver la juste place entre le soin et l'attachement, si ça vous paraît pertinent,
je peux
vous parler deux minutes de ce texte-là, parce que il s'est intéressé, c'est son métier en fait, d'accompagner des équipes soignantes et des familles dont un des membres est dans un état de connaissance et de conscience altérée, pardon. Et donc, les patients qui sont en éveil sans conscience, comme on dit, ou dans des états végétatifs, et qui produisent des chocs, des transformations dans la relation d'attachement que les familles peuvent avoir à leurs proches qui sont dans ces états-là, qui sont très très spectaculaires, et qui en même temps, pour être maintenus en vie, réclament des soins très 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 exigeants de la part des équipes soignantes. Donc dans ces situations-là, il se passe aussi des choses très complexes à mettre en place, malgré le fait qu'il y ait un cadre légal qui accompagne ces situations, qu'il y ait des données scientifiques qui puissent être mobilisées aussi pour réfléchir à qu'est-ce que c'est que le juste soin dans ces cas-là, qu'il y ait aussi des guidelines au niveau des valeurs éthiques et tout ça. Ce que nous montre Donatien Mallet, c'est que chaque histoire est à chaque fois très singulière, et chaque personne va développer une histoire qui va se transformer dans le temps, dans cet accompagnement. Et lui intervient à certains moments quand des questions se posent. Est-ce qu'il faut continuer à maintenir ces personnes en vie ou non, par exemple. Et Tout ça est très compliqué parce que les équipes ne sont pas toujours d'accord avec les familles, etc. Et donc, il faut pouvoir s'adapter à chaque histoire, à chaque cas singulier et ouvrir des espaces de discussion pour pouvoir trouver le juste soin, jusqu'où aller dans l'attachement, à quel moment cet attachement devient en fait aussi délétère à la fois pour les équipes ou pour les personnes qui sont dans le coma, en fait.
Il y a pas mal de couples ou peut-être de familles qui voient des personnes vieillir et tout d'un coup une relation qui était peut-être une relation de couple, une relation amoureuse devient une relation peut-être beaucoup centrée sur le soin. Ça peut altérer peut-être, on prend depuis l'autre bout de la lorgnette, mais le fait d'avoir une relation qui est de plus en plus du soin médical, ça peut aussi altérer la relation d'amour.
Oui, tout à fait. Je vous remercie aussi de souligner ce point-là. C'est la place des aidants dans les familles aussi, dont on parle de plus en plus, qui deviennent de plus en plus sollicités par les politiques publiques pour que les personnes âgées, par exemple, restent le plus longtemps à domicile, et ou les personnes qui souffrent de handicap, ce qui effectivement transforme fort les relations. Au sein des couples ou des familles, parce que les aidants deviennent quasi des professionnels, et la relation de dépendance peut aussi avoir une incidence sur la relation affective, tout à fait, et c'est un problème qui doit à mon avis aussi être discuter dans l'espace public pour trouver des soutiens aussi plus organisés que ce l'est souvent pour ces personnes aidantes.
Et puis l'amour peut parfois se transformer aussi en pitié suivant l'état de la personne aussi.
Ah oui. Oui, ça c'est aussi abordé par certains des auteurs philosophes qui interviennent dans le livre, cette difficulté de positionner la plurivocité de ce terme et de ses manifestations dans la relation de soins.
Vous avez travaillé aussi, Nathalie Zakaïrner, sur le travail notamment dans les EMS, ce qu'on appelle chez nous les EMS ou les EHPAD en France, bref, les maisons de retraite. Cette question de l'amour et du soin, elle se pose avec une certaine acuité dans ces lieux-là.
Écoutez, ce sont des lieux qui m'ont intéressée parce que ce sont à la fois des lieux de soins et des lieux de vie. Et ce qui m'a préoccupé, c'est de savoir comment en fait le désir de vivre pouvait être maintenu dans ces espaces. Et je me suis intéressée à la façon dont les artistes, en intervenant sur ces lieux, pouvaient avoir des effets absolument impressionnants sur les résidents qui apparemment étaient très éteints. Et donc j'ai suivi un peu le travail de ces artistes pour comprendre comment ils procédaient. C'est très interpellant sur la façon dont ils prêtent attention aux personnes. Ils sont tellement disponibles dans l'instant qu'ils peuvent arriver à approcher, à avoir un contact d'une qualité exceptionnelle que les soignants pris dans leur tâche, en fait, ont rarement l'occasion de mettre en œuvre. Et donc, ça interpelle un peu aussi sur... Par exemple, si vous voulez, si vous rentrez dans une chambre et que vous savez tout de suite quel acte médical vous voulez faire, ça n'est pas la même chose que si vous ouvrez la porte et que vous prenez juste un instant pour savoir, au fond, comment ça se passe ici, quelle est l'ambiance, qu'est-ce qu'il faut faire, et que vous acceptez de perdre ces quelques instants pour évaluer plus globalement l'état de la personne et ce qui effectivement conviendrait à ce moment-là.
Ça rejoint la question de l'attention, c'est aussi valider l'existence de l'autre, dire je te porte mon attention, tu as toute mon attention, et c'est ça qui compte presque tout autant que le soin.
Tout à fait. Et par exemple, si vous êtes à l'hôpital et qu'on vous dit vous aurez votre quart d'heure d'attention à telle heure, vous pouvez attendre toute la journée. En sachant que qu'il y aura un moment où on sera complètement disponible pour vous, tout à fait autrement que si vous ne savez absolument pas quand ni combien de temps on va pouvoir s'occuper de vous.
de l'importance de l'attention et des soins. Merci beaucoup Nathalie Zakaï-Renners d'être venue voir ce matin. Vous êtes chercheuse au Fonds de la recherche scientifique belge et professeure à l'Université libre de Bruxelles. Je rappelle le titre de cet ouvrage que vous avez dirigé, Aimer et soigner, c'est paru au PUF. Une bonne journée à vous.
Merci, à vous aussi.
Et à la technique ce matin, il y avait Gilles Ozaman et nos collègues de la RTBF qui vont accueillir dans leur studio à Bruxelles. Demain, nous parlerons de l'éthique dans les entreprises à 11h30. Les décodeurs débarquent qui sont toute cette semaine dans le Jura. Je vous souhaite quant à moi une excellente suite de journée à l'écoute de RTS Première.
Tribu, Julien Magnolet.
Entre nous, c'est Play RTS. Si vous aimez la vitesse et les sensations fortes comme le skieur Jeremy Heitz, ou si vous préférez dévorer des mini-séries à la maison, découvrez In Our Blood. Si vous aimez les documentaires authentiques comme American Yodel, ou si vous cherchez simplement à vous détendre, passez un bon moment devant L'humour est dans le pré. Retrouvez tous vos contenus préférés dès maintenant. Téléchargez l'application Play RTS.
Les décodeurs avec PMU. Les paris sur les courses hippiques en Suisse romande, PMUR.ch.